Les nombres dépassent au niveau national. Bon, après, ça dépend de nos rapports d'activité, mais grosso modo, on est à peu près à 450 passes. Alors, quand je parle au niveau national, c'est y compris les DOM, les TOM, voilà, il y en a partout, hein, c'est pas juste dans l'Hexagone. Avec, bon, voilà, on n'est pas sans douter l'Île-de-France, qui est celle qui a la plus grosse file active et le plus grand nombre de passes au niveau national. Une file active, donc, alors il y a toute une comitologie, bon, je vous l'épargne, voilà. Et surtout on a des rapports d'activité qui sont nationalisés, donc avec une possibilité de suivi de l'activité de la situation épidémiologique depuis très longtemps, chose qui nous permet d'une année sur l'autre de suivre un peu les évolutions et les changements populationnels. Alors évidemment, là, les trous, c'est l'année Covid, ça va de soi, mais sinon, on est effectivement sur une file active qui augmente d'une façon constante d'une année sur l'autre, avec beaucoup, ça se concentre en région Île-de-France, mais pas que. Voilà, et donc en région Île-de-France, on a à peu près 63 passes, mais 60 sites où la passe est présente, donc entre généralistes, des passes somatiques au milieu psy, on a des passes mobiles, on a une passe pédiatrique, des passes mucodentaires, deux passes ophtalmo, et ça on est les seuls à avoir des passes ophtalmo, ça n'existe pas ailleurs, et une passe exclusivement psychiatrique. Chaque passe, ça peut avoir à un moment donné, parce que là aussi ça dépend des ressources humaines et des occasions de la vie, d'avoir à un moment donné dans son équipe une psychologue, un médiateur, un podologue, etc. Voilà, mais il y a au moins les triptyques médecin, assistance sociale et infirmier. Et parfois pas, parce qu'on est aussi victime de la pénurie des ressources humaines. Voilà, donc là, juste depuis quelques années, on perd au niveau des postes. Donc en fait, on a de plus en plus du mal à recruter et avoir un socle en ressources humaines. Donc vous avez une file active qui augmente et les ETP qui baissent. Je ne vais pas vous faire chialer. Effectivement, l'effet. Alors, c'est l'idée étant que quelqu'un qui soit effectivement en situation de précarité puisse avoir aussi une unité lieu d'accueil et une palette de services, d'offres de soins qui soient concentrées au même endroit. On a bien vu, sur l'exemple des hôpitaux des jours, la rentabilité et pour les patients et pour l'équipe soignante de ne pas démultiplier les orientations, les rendez-vous, etc. Donc nous, au niveau de la file active régionale, on est, sauf l'année Covid, ça n'est fait qu'augmenter. Là, j'ai pas eu le temps de faire les stats, mais on a augmenté à peu près, on arrive là cette année à 57 000. Donc voilà, on n'est pas en manque, malheureusement, des personnes précaires. Ça c'est par département, c'est pas très intéressant. Et je vais passer vite sur tous ces jolis stats, juste pour vous faire peut-être donner un peu plus du temps pour la description du profil sociologique des patients que nous accueillons. Alors, vous avez la chance d'avoir une vieille devant vous qui est sur ses postes depuis 12 ans. Et en fait, on voit aussi les évolutions qui ont eu lieu au niveau de la passe. Donc, le public et la patientèle prise en charge il y a 10 ans n'est pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos files actives, alors ça, je dis nos files actives, c'est vrai à peu près au niveau national, avec bien évidemment des spécificités qui sont concentrées plutôt dans les gros centres urbains, mais des files actives qui sont composées majoritairement par des migrants primo-arrivants. Voilà, on était il y a 10 ans, c'était globalement des hommes seuls, qui venaient en France, qui étaient célibatarisés, qui étaient peut-être avec une famille au pays, mais qui venaient en France, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, et qui se trouvaient en situation d'isolement dans les pays hôtes. Là, depuis quelques années, on voit le nombre des femmes qui augmentent. Et je tiens vraiment... Alors, ce n'est pas un scoop, 50% des demandeurs d'asile sont des demandeuses d'asile. Néanmoins, ce qui est très important, que voilà, les femmes en situation de rue, de précarité, sont beaucoup plus vulnérables en termes de victimes, potentiellement victimes de violences, dans les pays d'origine, au long du trajet migratoire, et dans les pays hôtes. Donc une prise en charge qui se complexifie à la fois sur le niveau clinique, à la fois au niveau social, parce que les places d'hébergement, il n'y en a pas, donc voilà, c'est un enjeu aussi, et on va dire une charge mentale pour tout ce qui est social, pour essayer de trouver de l'hébergement mis à l'abri, alors qu'on est sur une situation qui est assez catastrophique. Les nombres des personnes, enfin les non-répondants sont 15, bon, bref, voilà. Donc un public qui reste relativement jeune, sont 26 à la tranche d'âge, reste relativement stable. Par contre, un nombre de plus en plus important des mineurs non accompagnés en recours. Donc des gens qui arrivent tout seuls, mineurs, et qui après sont évalués par l'aide sociale à l'enfance et non reconnus. Et pendant les périodes des recours, donc le recours n'est pas suspensif, et donc ils ne sont pas pris en charge par l'ASE. Voilà, ils ont des problèmes de santé, ils sont à la rue, ils sont totalement isolés, etc. Parmi les femmes, un nombre important des femmes enceintes qui vient en passe. Voilà, donc on a aussi un changement populationnel. Alors là, quand j'ai parlé des femmes, on a toujours eu des femmes en passe, hein, mais c'était plutôt des femmes qui venaient dans les cadres du regroupement familial et qui donc, pendant un certain temps, ils n'avaient pas une couverture médicale, le temps de clarifier leur situation administrative. Là, on a des femmes qui arrivent avec les mêmes périples migratoires que les hommes, donc plusieurs pays traversés, plusieurs années des périples migratoires et qui passent par les mêmes routes migratoires, notamment la Libye. Voilà. Si quelqu'un a vu les films, voilà, moi capitaine, enfin même sans, voilà. Donc avec effectivement qui arrive avec des situations cliniques qui sont extrêmement complexes, à qui effectivement on propose, enfin, auquel on ne peut pas se permettre de répondre à une demande de santé, mais on doit être proactif au niveau de la passe. Et donc, il y a, on va dire, quelque chose qui va être, pas simplement être dans la réaction à la demande, mais davantage sur quelque chose qui est du dépistage, proposer du dépistage. Et donc, on se retrouve à parfois annoncer des séroprévalences, avoir à gérer des grossesses étant victime des viols. Donc une clinique qui devient assez particulière, et c'est d'autant plus que les populations que nous recevons passent avec un ordre de retard, mais c'est à l'image de la géopolitique internationale. Et donc par exemple, on a vu, alors que par exemple pendant des années, on avait pas mal des gens qui étaient venus du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne francophone. Là, on a beaucoup de personnes qui viennent du Sud-Soudan, d'Éthiopie, voilà. Et donc, en fait, aussi avec une difficulté qui peut être celle de l'allophonie, du système de santé du pays où ils arrivent. Donc au Sud-Soudan, il n'y a pas de système de santé, c'est simple. Donc on va repartir sur un rattrapage vaccinal. Enfin, c'est parfois des gens qui n'ont pas été en contact avec les corps médicaux depuis plusieurs années, soit parce que dans les pays d'origine, à cause des guerres, etc., il n'y en a plus. Et après, pendant les périples migratoires, ont été en contact avec les systèmes de santé d'une façon sporadique, irrégulière, totalement voilà, aléatoire. Avec l'arrivée dans un pays où ils ne connaissent pas les systèmes de santé, avec des métiers qui n'existent pas dans les pays d'origine, psychologue, assistant social, donc aussi une difficulté à on va dire, à intégrer la compréhension du système de santé, voire parfois la méfiance, parce qu'il ne comprend pas pourquoi on demande de plein de papiers, il va comprendre qu'il a l'AME. Vous avez tous lu, bien sûr, les rapports Evin Stefanini. 52% des personnes qui seraient éligibles à l'aide médicale de l'État, ils ne le sont pas après 3 ans de vie en France. Voilà, donc s'ils ne rencontrent pas une asso, quelqu'un qui leur dit « mais tu peux être soigné sans frais, sans payer », ils ne vont pas pouvoir l'imaginer, ils ne vont pas pouvoir le comprendre. Voilà. Alors, évidemment, hein, si sont pris en charge à la passe, comme je vous disais, les critères d'inclusion, c'est être en situation de précarité. Donc vous allez me dire, c'est normal qu'ils soient précaires, hein, sinon ils ne vont pas être dans la file active des passes. Certes. Néanmoins, c'est qu'on voit que les critères de précarité, les premiers étant celui de l'hébergement, lui aussi est en train de se détériorer. Il y a 10 ans, l'hébergement, c'était des gens qui étaient pris en, enfin, hébergés par un tiers. Alors, être hébergé par un tiers, hein, c'est pas très drôle. En Italie, on dit que les invités, c'est comme les poissons, au bout de 3 jours, ça pue. Mais voilà, bon. Donc, mais voilà, quelqu'un de la famille, hein, dans les foyers travailleurs migrants, il y a quelqu'un qui, bon gré, mal gré, va partager la chambre avec quelqu'un de la même famille. Quand je dis famille, hein, ça peut être très élargi, etc. Là, on est sur, on va dire que les familles amies ou communautaires, bien évidemment, populationnellement, ça change, donc on n'a pas les mêmes repères et la même enveloppe sociale en arrivant dans un pays où, historiquement, la communauté n'est pas présente. Donc on a de plus en plus de personnes à la rue qui ne peuvent pas bénéficier d'une famille amie. Quand vous avez une femme qui vous dit « je suis hébergée par un compatriote », c'est pas forcément une super bonne nouvelle, même si on est dans l'impossibilité de lui trouver une place d'hébergement. Mais quand, voilà, par ailleurs, on peut se poser légitimement la question de la... Bon, bref, voilà. Et quand on somme, donc, entre ceux qui sont hébergés par... qui sont en squat, bidonville, caravane, hébergement d'urgence, alors c'est vraiment quelques nuits, hein. Une nuit par-ci, on peut parler, après on ressort, après encore une nuit, parfois à l'autre bout de la région, etc. Qu'ils arrivent eux-mêmes à se payer une nuit d'hôtel par-ci, par-là, ils sont à la rue. Quand on enlève, hein, hébergé par un organisme, un asso, d'une façon suivie, et on va dire famille, amis, on est quand même sur un indicateur de précarité qui est relativement élevé. Voilà. Et donc, en fait, on se rend compte que ces critères d'hébergement précaire n'est fait qu'augmenter. Alors, évidemment, non pas de couverture médicale à l'arrivée en passe. Comme on n'avait pas suffisamment de patients à prendre en charge, les derniers changements sur la régulation des demandeurs d'asile prévoient depuis quelques années qu'un demandeur d'asile, que je rappelle au passage, qui est totalement en situation régulière, pendant les process des demandes d'asile, auparavant, en situation régulière, il avait droit à la PUMa, enfin la C2L, etc. Maintenant, depuis quelques années, ils ont obligé à avoir 3 mois de carence. Pendant ces 3 mois de carence, le seul endroit où ils peuvent avoir accès aux soins, c'est les passes. Donc, en fait, on a récupéré aussi tous les demandeurs d'asile pendant les premiers 3 mois, et après les 3 mois, selon qu'ils soient... Selon les process, ils vont basculer dans la C2S, ça pourra après probablement revenir en situation irrégulière, ce sont des butées du droit d'asile. Les assistants sociaux, elles s'éclatent, hein, ping-pong, enfin, on change des statuts de couverture, hein, tous les 3 minutes. Voilà, on est quand même des dispositifs qui sont financés selon les besoins populationnels. En ce qui nous concerne, on est à peu près à 30 millions. Il y a 10 ans, on était à 10, on est à 30 aujourd'hui. Voilà, petite difficulté, alors en plus de tout ce que je vous ai raconté, voilà, on a des complexités des situations médicales. Alors, je n'ai vraiment pas le temps, mais je vous laisse imaginer tout ce qui est du côté santé mentale, vu les situations sur lesquelles ils ont fui, les périples migratoires, l'arrivée, ce ne sont pas un welcome, n'y a pas de place, tu as la rue sous une tente, donc bon, voilà. Ça, quoi qu'il en soit, ça a un impact sur la santé mentale. Même une fois qu'ils ont obtenu l'aide médicale d'État et ou une couverture médicale comme la C2S, Puma, etc., grosse difficulté des prises en charge en ville. On y arrive, mais c'est compliqué, surtout pour les personnes allophones. Voilà, et bien évidemment, tout ce qui est aussi absence, enfin, désert médical, médecin, etc. Mais surtout, on se rend compte que ce sont aussi des personnes qui arrivent avec des pathologies complexes qui nécessitent un suivi coordonné, des consultations beaucoup plus longues du fait de l'intrication santé mentale et précarité et l'impact de la précarité sur la santé somatique et la santé mentale. Et j'ai fini. et je suis à disposition si vous avez des questions. Thank you.